Mission Vision avec Julie Châtelain.
Bonjour tout le monde, ici Julie Châtelain, je suis très heureuse de vous retrouver dans Mission Vision. Ah, cette belle émission où est-ce qu'on parle de l'handicap visuel avec des personnes avec handicap visuel ou d'autres qui n'en ont pas. Mais je les amène à se questionner sur qu'est-ce que c'est le sens de la vue. C'est quoi l'importance qu'on porte sur ce sens? Et aujourd'hui, je vais recevoir deux invités qui ont eux-mêmes un handicap visuel. Je vais recevoir, parce que là, je suis bien heureuse d'accueillir un jeune de 13 ans. Ben oui, un jeune de 13 ans qui est en relâche. C'est pour ça qu'on s'est dit, hey, c'est le bon moment de l'accueillir aujourd'hui, parce que sinon, ben, il est à l'école. Donc, je vais recevoir Marc-Antoine Lévesque de l'école Jacques Ouellette. Et tout de suite après, je vais recevoir Audrey-Anne Bouchard. Elle aussi qui a un handicap visuel, mais elle est artiste. Elle travaille depuis longtemps au niveau des arts visuels. Elle a différents spectacles. Et là, on va voir un peu avec elle c'est quoi ses prochains projets. Ça va être vraiment très intéressant. Mais tout d'abord, j'ai devant moi Marc-Antoine Lévesque parce qu'il est en studio avec moi. Allô, Marc-Antoine.
Bonjour.
Comment vas-tu?
Bien.
Bien. T'es en relâche, là?
Oui.
Qu'est-ce que ça fait, être en relâche, là?
Ça fait du mois pour se reposer puis de voir notre famille.
Oui. Marc-Antoine, tu vas à l'école Jacques Ouellette.
Oui.
L'école Jacques Ouellette, c'est une école où est-ce qu'il y a 100% des étudiants qui ont un handicap visuel, c'est bien ça?
Oui.
Et là, là-dedans, là, dans cette école-là, là, on parle vraiment d'étudiants de maternelle à 21 ans.
Oui.
Donc,
exactement.
C'est ça. On les amène jusqu'à 21 ans. Et toi, tu es là depuis que tu as quel âge?
Depuis que j'ai genre 6 ans, je pense. Je suis dans ma 9e année à cette école.
Oh, OK. Tu es à ta 9e année. Tu es en secondaire 2?
Secondaire 1.
1, OK. Et l'école, Jacques Ouellette, là, dans le fond, tu as fait ta maternelle dans une autre école, ça veut dire?
Non.
Non?
Peut-être que je suis arrivé plus tôt, mais j'ai fait ma maternelle à Jacques Ouellette.
Donc, tu as fait tout ton parcours, finalement, depuis le début. Tu n'as pas été dans une autre école que Jacques Ouellette.
Non.
OK. Pour les auditeurs là, qui ne connaissent pas cette école-là, qu'est-ce qu'elle a de spécial?
C'est une école en déficience visuelle, fait que tous les profs sont là pour nous aider.
Oui.
C'est tout le monde avec des déficiences visuelles. À notre école, on a une piscine, un gymnase, puis plein de choses comme ça. C'est plein d'élèves avec une déficience visuelle. Les professeurs sont là pour nous donner des outils, puis tout ça.
Est-ce que c'est des profs qui ont un handicap visuel aussi?
Non, les profs sont voyants.
OK. Mais là, ça veut dire que toi, tu fais ton école comme tous les autres enfants. Mais là, exemple, tu vas avoir des matières comme du français, des mathématiques.
On va avoir des matières comme ça, mais ça va être comme... Peut-être que le rythme va être un petit peu moins...
Rapide?
Rapide que dans les écoles régulières.
OK. Mais en même temps, on t'apprend, exemple, le français, t'apprends le français avec...
J'apprends toutes les matières, sauf que le rythme est comme un peu moins rapide.
Oui, mais moi, ce que je veux savoir, là, c'est que justement, là, c'est que, exemple, t'es en train d'apprendre le français, mais là, ça veut dire que t'as des adaptations qui sont là pour t'aider... le braille, t'as-tu un ordinateur?
J'ai un ordinateur portable avec une plage tactile.
Une quoi?
Une plage tactile.
Plage tactile, qu'est-ce que c'est ça?
C'est un clavier pour qu'on puisse, les élèves en braille, pour qu'on puisse écrire dessus.
Est-ce que tu écris en braille?
J'écris avec une dactylo braille.
OK, donc tu parles, toi, tu utilises le braille?
Ouais, j'écris avec une dactylo braille.
OK.
Puis j'écris à l'ordinateur avec ma plage tactile.
Est-ce que ça veut dire que, dans le fond, toi, ils t'ont appris le braille. Est-ce que c'est à Jacques Ouellette qu'on t'a appris ça ou c'est dans un centre de réadaptation comme à Louis Braille?
C'est à Jacques Ouellette.
OK. À Jacques Ouellette, on t'a appris le braille comme on apprend finalement les tout-petits en maternelle à apprendre à écrire, mais avec un crayon puis du papier.
Ouais, sauf que nous, sauf que moi, j'ai appris à écrire en braille.
En braille, c'est ça. Ça veut dire que toi, tu vas lire des livres en braille. Ah ouais, ah!
Et des livres sur mon ordinateur à la plage tactile. Je peux avoir aussi des livres en audio. J'ai un Victor Stream.
Oui, Victor Stream, c'est ça. Mais ça veut dire que tu utilises aussi beaucoup l'audio.
Oui, quand même.
Oui. Ça veut dire que dans tes cours et tout ça, il y a des moments probablement qui vont t'envoyer plus comme un logiciel à écouter ou des trucs comme ça. Tu sais, que ton cours, finalement, y est au lieu d'avoir un livre complet à lire en braille, ben il va être plus en audio.
Ouais.
Ou les deux. Les deux options.
Ouais, ben des fois, c'est au complet, mais il y a des livres que des fois, ils nous mettent... des chapitres en audio, puis
okay.
Ça dépend de la grandeur du livre, là.
OK. Puis qu'est-ce que t'aimes à l'école?
Ben j'aime mes amis, j'aime commencer dans l'école, j'aime tout le monde est gentil avec tout le monde, puis tout le monde est gentil avec tout le monde respecte tout le monde.
Ça, c'est le fun, hein?
Ouais.
Et toi, si on remonte là, au niveau de ton handicap visuel, là, qu'est-ce que c'est ton handicap visuel? Est-ce que c'est de naissance?
Moi, c'est de naissance.
OK. Puis, dans le fond, tu es né complètement aveugle?
Non, ben je vois un petit peu de mon œil droit.
OK.
Puis, je perçois juste la lumière de mon œil gauche.
OK, mais quand tu dis que tu vois un petit peu de ton œil droit, pas assez pour te
déplacer. Non, je vois pas assez pour lire en noir. En agrandi.
Non, OK, c'est ça. Donc, ça veut dire que même en agrandi, c'est pas suffisant. Ça va te permettre peut-être de voir s'il y a des gens autour. Tu sais, comme moi, à la distance que je suis, est-ce que tu vois comme une ombre?
Oui, je te vois. Ouais, je te vois.
OK, tu vois une ombre.
Ouais, bien, j'ai réussi à te voir.
Est-ce que tu vois que mon chandail il est noir, mais qu'il y a de l'écriture de couleurs dessus?
Ouais, un peu, ouais.
OK, fait que tu arrives à voir qu'il y a comme. Oh, il y a des couleurs, mais tu pourrais pas dire si c'est un dessin ou si c'est des lettres.
Oui, un peu ça.
OK. Et toi, dans le fond, c'est quoi la maladie?
Ben moi, je fais de la micro-ophtalmie bilatérale. Je fais du glaucome.
Du glaucome, OK.
Ouais.
Mais de la... OK, répète donc ce que tu as dit.
micro-ophtalmie bilatérale.
OK, micro-ophtalmie bilatérale. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ben j'ai un œil plus petit que l'autre. Genre, mes yeux, ils sont formés, mais...
Plus
pas
petit.
Tant que ça. Mon œil droit, il est plus petit que mon œil gauche.
Donc, comme une malformation, finalement, au niveau de l'organe, de l'œil?
Ouais, je pense un peu, c'est ça.
OK. Puis ça fait que, finalement, parce que t'as parlé du glaucome, est-ce que c'est à cause... Est-ce que, dans le fond, ça, c'est un symptôme de la maladie?
Je pense que oui.
OK. Mais parce que, dans le fond, le glaucome, souvent, c'est quelque chose qui va dégénérer...
Mais... Ouais, ben mon œil gauche, j'ai eu quelques problèmes avec. J'ai dû me le faire opérer au laser puis des choses comme ça, là.
OK. Mais à ce moment-là, tu dis quand même, quand t'es né, tu voyais déjà presque rien, là.
Ben je voyais quand j'étais né. Quand j'étais né, je voyais mes deux yeux un petit peu.
OK.
Mais après ça, je pense que c'était en 2020, quelque chose comme ça, que j'ai perdu... le résidu visuel de mon œil gauche, j'ai juste la lumière.
OK, mais quand même, t'allais déjà à l'école Jacques Ouellette. Ça veut dire que t'avais un handicap visuel assez important.
Ouais, j'allais déjà à l'école Jacques Ouellette.
C'est ça. OK, même si c'est dégénératif, mais toi, t'es pas parti de quelqu'un qui voit relativement bien et que là, tranquillement, oups, plus capable d'écrire, plus capable de voir les couleurs. Toi, c'était déjà pas quelque chose qui était, tu sais, que tu pouvais voir, là.
Ouais.
Les détails, finalement. Tu pouvais pas voir les détails.
Ben, je pouvais voir un petit peu, là.
Mais non, mais les détails, ce que je veux dire, c'est genre, exemple, tu sais, d'être en mesure de lire sur un panneau quand il y a de l'écriture, des choses comme ça, déjà, tu pouvais pas voir ça.
Non, ben, je peux pas lire.
Quand t'étais petit, là. Avant 2020, là, je parle, là.
Non, ben, avant 2020, je lisais en braille aussi.
Ah, c'est ça. Donc, t'avais déjà un handicap visuel qui était assez important.
Oui.
OK. Et là, t'as 13 ans, tu rentres les deux pieds là, dans l'adolescence. Comment ça se passe pour toi, là? Tu sais, juste de penser à plus tard, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Est-ce que le fait d'avoir un handicap visuel, ça te met déjà des freins ou toi, il n'y en a pas vraiment?
De quoi?
Des freins. Parce que, OK, comment je vais te dire ça? C'est que, moi, exemple, moi, j'ai un handicap visuel. Tu sais que j'ai un handicap visuel?
Oui.
Bon, parce que moi aussi, je me déplace avec une canne blanche, mais moi, j'ai beaucoup plus de vision que toi, là. Bon, mais moi, quand j'étais adolescente, déjà, je me disais, oh mon Dieu, je pourrais jamais faire ça parce que j'ai un handicap visuel. Toi, c'est-tu quelque chose que tu vas souvent te dire?
Moi, j'avais pensé à faire mécanicien, mais là, je me suis dit, avec mon handicap visuel, je serais pas vraiment capable. Mais là, après ça, j'ai commencé à parler de la radio et tout ça. Mais avec la radio, ça pourrait être bon, là.
OK. Mais au départ, t'aurais aimé ça être mécanicien?
Ouais, au départ, ouais. Mais après ça, j'ai comme un petit peu réfléchi. Puis là, j'ai comme changé d'avis un peu, là.
OK. Mais est-ce que c'est parce que c'est toi qui as réfléchi à ça ou c'est les gens autour de toi qui disaient « Ben non, tu pourras pas être mécanicien, ça va pas être facile. »
Ben, ils m'en ont parlé un petit peu, puis j'ai réfléchi un petit peu aussi de mon côté, là.
OK. Puis tu t'es dit « Ah, je vais peut-être trouver autre chose qui, qui va être peut-être plus facile avec ma condition. »
Ouais.
Puis là, tu as pensé à la radio.
Ouais.
La radio, comme... Qu'est-ce que tu veux dire? Faire de la radio?
Ben, être animateur de radio, des choses comme ça, là.
OK. Fait que là, c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu étais content de venir t'asseoir dans un studio de radio. De là, pourquoi on s'est arrangé pour que ça soit dans une...
Durant la semaine de relâche.
Oui, c'est ça, parce que sinon, ben, tu étais à l'école, on aurait peut-être pu s'arranger que tu manques un petit temps pour le faire par téléphone, mais c'est ça, comme on disait avec ta maman, ben, tu sais, toi, tu t'en...
C'est mieux en direct, ben, comme ça.
Ben oui, parce que là, tu goûtes à c'est quoi un studio de radio. Est-ce que c'est la première fois?
Non, ben j'avais déjà été dans les studios de Boom FM, là.
Ouais.
Parce qu'ils sont venus à l'école.
Ah oui, ils sont venus à Jacques-Ouellette.
Ouais. OK. Par une professeure qui les avait invités.
OK, puis qu'est-ce qu'ils ont fait?
Ben, ils nous ont jasé. C'était l'émission du réveil.
Oui.
Ils nous ont jasé, puis tout ça. Puis moi, ben, vu que c'était moi qui aimais vraiment le plus la radio dans ma classe.
Oui.
Ben, c'est moi qui ont invité dans un studio.
Après?
Non, ben durant une semaine de relâche, durant leur émission.
OK. Donc, t'es allé dans leur... sont venus à ton école, puis après ça, ils t'ont invité en studio dans leur émission.
Ouais.
OK. Puis quand ils sont venus à l'école, est-ce qu'il y avait dans le fond leur, leur matériel là, avec micro et tout
ouais,
ça?
Ouais, ben il y en avait emmené un petit peu, ouais.
OK. Puis ils faisaient leur émission là?
Pas dans notre école, mais... Ils avaient fini leur émission le matin, puis ils sont venus à notre école après.
OK.
Puis là... moi, durant la semaine de relâche qui s'en venait bientôt, ben ils m'avaient invité à venir en studio.
Ah oui, OK. Puis là, à ce moment-là, t'es allé dans leur émission du réveil.
Ouais, c'était en direct à la radio. Je parlais pas, là.
Non?
Mais non, je parlais pas.
Ah, OK, plus ben, comme j'avais observateur. Dit un mot,
j'avais dit un mot, mais ils m'ont dit qu'en onde, ils voulaient pas que je parle.
OK.
Mais j'étais là, tu sais, j'assistais là.
Oui, c'est ça. Donc, t'étais assis dans le studio, mais t'étais pas comme là, tu sais, qu'on fait une entrevue.
Ouais, j'ai jasé avec eux autres durant les pauses publicitaires, durant la musique.
Mais pas au micro, en direct, là.
Non.
Que les gens y entendent, là.
Non.
Et à ce moment-là, c'était qui les animateurs?
C'était Jeff Paquette puis Amélie Paré.
Est-ce que tu connaissais déjà?
Oui, ben c'est eux qui étaient venus à mon école.
Ouais,
à l'école.
Oui, mais c'est ça. Mais avant d'être venu à ton école, est-ce que tu les connaissais déjà?
Ben je savais qu'ils étaient à la radio, mais non, je les connaissais pas.
OK. Puis donc, ça veut dire que comme tu savais que c'était... tu sais, parce que des fois, on fait « Oh mon Dieu, c'est tellement quelqu'un que j'avais envie de rencontrer un jour. » Toi, c'est-tu des personnes que tu t'étais dit « Ah, si je pouvais les rencontrer. » Mais elle a répondu.
Ben non, je m'avais pas dit ça, mais là, ma prof... Mais là, il y avait une de mes profs là, qui avait fait une qui avait été invitée à leur émission.
OK.
Fait que là, ben là, elle leur avait parlé de ça, puis elle avait parlé de ça à toute la classe. Puis là, nous, on a dit oui. Puis là, quand ils sont venus, ben là, ils m'ont dit qu'elle aimait inviter moi parce que c'est moi que, qui aimait plus la radio dans la classe.
OK. Puis à ce moment-là, quand t'es allé en studio, là, qu'est-ce qui s'est passé pour toi, là? T'sais, quelle émotion t'as ressenti?
Ben, j'étais content d'être là. Je pouvais pas parler, mais j'étais content d'être là.
Ben oui. Fait que tu t'es dit, hey, je pourrais être à la place de...
Ouais, je pourrais être à leur place.
À leur place, c'est ça. Puis cet exemple, là, je te disais, OK, t'as carte blanche, là. Tu peux faire une émission de radio. Ça serait quoi le sujet? Qu'est-ce que t'aimerais faire?
Ben, je parlerais beaucoup de hockey.
Ah ouais?
Ouais.
Tu ferais une émission un peu tu sais, sportive avec... voyons, comment il s'appelle, là? Ron Fournier, là? Ou est-ce que là, on parle de hockey? Je sais pas si tu le connais, Ron Fournier. Tu connais-tu Ron Fournier?
Ça me dit de quoi,
là? Oui, pas... T'es peut-être un peu jeune. Un peu jeune. Tes parents, ils doivent le connaître. Mais c'est ça, lui, il faisait une émission 100%, c'est juste du hockey, là. Tu sais, les gens qui appellent pour parler du hockey, c'est pour chialer sur le dernier match de hockey. C'est que ça, l'émission. Toi, c'est-tu un peu ça que t'aimerais faire avec vraiment juste du hockey ou on parle de sport de façon générale?
Ouais, juste le hockey, ça pourrait être bon.
Ah ouais, OK, juste le hockey. Puis qu'est-ce que t'aimes, justement, dans le hockey?
Ben, j'aime toutes, là.
OK, t'aimes toutes. Mais toutes, c'est quoi ça, toutes? Il y a beaucoup de choses, là, au hockey.
Ben, les buts, là. Les mises en échec, les arrêts.
OK.
L'ambiance qu'il y a dans une aréna, le son que ça fait, puis...
OK, mais est-ce que, justement, t'aimes le hockey à l'aréna ou t'aimes ça écouter le hockey chez toi, à la télévision?
Ben, j'aime les deux, là.
OK. Question ici. Pour une fille quand même qui a un handicap visuel, mais qui se dit, je suis sûre que les auditeurs se posent la question. On se dit, OK, mais tu ne vois pas le match. Donc, comment tu fais?
Ben, je le vois un petit peu, le match. Je le vois.
OK, comment tu le vois?
Ben, avec mes yeux.
Non, je veux dire, tu peux pas voir la rondelle. J'ai de la misère à voir la rondelle. C'est pour ça que je te dis ça.
Je vois pas la rondelle. Je vois pas la rondelle beaucoup, mais je peux voir qu'il y a de l'éclairage. Je peux voir la patinoire en face quand je suis en vrai.
OK.
Puis je peux voir quand ça se déplace, là.
Ah oui! Tu vois les joueurs, tu vois comme des petits points de couleur, fait que t'es en mesure...
Ouais, qui se déplacent un peu.
Ah, donc...
Ça se déplace vite, fait que je peux savoir que c'est quelle équipe qui attaque, parce que ils ont chacun leur zone, fait que je peux savoir... quelle équipe est en zone offensive, après ça, c'est quelle autre équipe, parce que ça se déplace vite. Là.
Oui, OK, mais c'est ça, mais là, c'est parce que t'es un pro du hockey, là. Mm-hmm. Tu sais, pourrais même être en mesure de savoir les mouvements, puis dire que, tu sais, OK, eux autres, ils se déplacent vite, donc c'est parce que c'est l'équipe qui est en offense et en défense. Puis c'est qui ton équipe préférée?
Ben, j'aime pas mal, j'aime bien le Canadien.
Ouais. Donc, c'est ton équipe préférée?
J'aime bien l'autre équipe de Ligue nationale, là, aussi.
Oui? OK, mais mettons ta préférée. T'as le droit de dire n'importe quoi ici, hein? Il n'y a pas de... c'est ça, là.
Ben, j'aime bien les Oilers d'Edmonton, parce qu'il y a le meilleur joueur au monde au hockey qui est là, aussi.
C'est qui le meilleur joueur?
C'est Connor McDavid.
Ah, c'est ça! Hein. J'aurais pas pu dire c'est qui, mais en entendant son nom, je sais c'est qui. OK, fait que les autres, t'es aimes beaucoup.
J'aime aussi les Penguins, parce qu'il y a Sidney Crosby dans l'équipe.
Ben oui, ça, t'as bien raison. Les pingouins, moi, je les adore. Et là, tu as en ce moment un chandail du Canadien.
Ouais.
Parce que t'aimes le Canadien, tu l'as dit. Mais est-ce que c'est parce que aussi tu t'en vas voir un match comme ça de même, là, ce soir, après l'émission?
Ouais, je m'en vais ce soir à la Place Belle de Laval pour aller voir le Rocket de Laval.
Le Rocket. C'est quoi le Rocket?
C'est le club école du Canadien. C'est dans la Ligue américaine, nous autres.
OK. Club école, ça, c'est-tu comme les juniors majeurs ou c'est...
Non, ben c'est des joueurs, c'est des futurs vedettes de Ligue nationale. Là. Si les joueurs sont bons, ben ils peuvent se faire appeler par le grand club, là.
OK. Donc, ça veut dire qu'eux autres, ils ont des très bonnes chances d'être recrutés.
Ils sont bons, mais ils manquent un petit peu de talent pour...
être dans la Ligue nationale.
Ouais.
OK, t'es-tu déjà allé les voir, eux autres, les
Ouais, c'est la quatrième fois que j'y vais cette année.
Ah, ouais! Puis c'est à Laval?
Ouais.
OK, puis entre exemple, là, le Rocket ou d'aller voir un match directement là, des Canadiens, qu'est-ce que tu préfères?
Bien, sûr que j'aime ça, les Canadiens aussi, mais le Rocket, les billets sont moins chers.
Ah, c'est ça!
J'étais allé deux fois aux Canadiens, mais c'est des billets de... des patrons de mes parents, tandis qu'au Rocket, bon, s'acheter des billets parce que le Canadien, c'est trop cher un peu.
Bien, c'est plus accessible d'aller voir les Rockets.
Ouais.
Puis les Rockets, ils jouent contre qui?
Les Americans de Rochester.
Les quoi?
Les Americans de Rochester.
Donc, eux autres aussi, c'est le club-école de...
C'est le club-école des Sabres de Buffalo, aux autres.
Ah ouais! Hein? Là, tu m'apprends quelque chose. Là. Moi, j'étais pas au courant de ça. Moi, je savais qu'il y avait le junior majeur, là, parce que souvent, on entend ça. Là. Ou est-ce qu'il y a des joueurs là, qui peuvent être recrutés, mais je savais pas là, qu'il y avait un club-école. Donc,
probablement... Ouais, chaque équipe de la Ligue nationale a son club-école.
Ah ben là, ça, c'est vraiment très chouette. Là. Non,
c'est pas, la Ligue américaine, aux autres.
OK. Ça veut dire qu'ils peuvent être recrutés, mais pas uniquement dans le club où est-ce qu'ils sont. Là. Ils peuvent être recrutés par d'autres équipes.
Ben, ils peuvent aller dans leur club, là, mais des fois, ils peuvent faire échanger.
Ah, OK. Non, mais exemple, un joueur des Rockets du Canadien, là, est-ce qu'il pourrait être recruté par une équipe des Oilers, là, exemple. Là.
Ben, je pense, là, il peut se faire échanger puis il peut être là, là.
Ah, c'est ça. Donc, eux autres, ils ont intérêt à être bons à soir parce qu'on ne sait pas s'il y a des gens qui sont là pour les recruter.
Ouais.
C'est un peu ça, là. C'est comme s'ils font des auditions, finalement.
Ouais.
Des entrevues. Et là, dans le fond, tu t'en vas là ce soir. Fait que moi, je trouve ouais. ça vraiment le fun parce que là, t'es venu en studio juste avant d'aller là. Il y a aussi une autre émission que t'as faite. Que là, on a parlé de la radio, mais sinon, t'as fait « Ça ne se demande pas ».
Ouais.
Ça, c'est autre chose. Télé. Ouais. Ça, là, c'est autre chose parce que là, c'est pas la radio, mais c'est les communications. Ouais, t'es sur un plateau de tournage.
Mm-hmm.
OK. Ça, comment ça s'est passé, ça? Ça
c'était bien, ça.
Ouais, ça, t'as aimé ça?
Ben, je disais des questions en braille, puis je répondais.
OK. Puis, à ce moment-là, toi, tu le savais, là, qu'on allait poser des questions en lien avec ton handicap visuel.
Ouais.
C'était ça, là, dans le fond, là? C'est comme si vous êtes plusieurs...
C'est un peu ça, là. C'est...
Adolescents qui...
C'est quoi les activités que t'aimes plus faire, des choses ouais. comme ça, là?
Puis là, tu répondais spontanément.
Ouais.
Y avait-tu comme « Oups, coupé, on recommence, Marc-Antoine a toussé. » Y avait-tu des choses comme ça ou pas?
Je me rappelle plus.
Tu te rappelles pas? T'as fait ça quand?
Ça fait quelques années déjà.
Ah, oh, t'étais tout petit?
Non, j'avais peut-être 10 ans, quelque chose comme ça, 10-11 ans.
Ben, parce que quand tu fais quelques années, là, moi j'imaginais quelques années, donc tu sais que t'avais 8 ans, mettons, je pense.
Ben, je me rappelle plus exactement c'était en quelle année.
Mais t'étais jeune quand t'as fait ça.
Quand même.
Puis à ce moment-là, tu étais déjà... est-ce que tu voulais... tu pensais aller dans les communications ou pas encore?
Ben... Ouais.
Ouais? Un peu? OK. Puis c'est quoi justement que tu aimes faire? Parce que là, on le sait, tu vas à l'école, tu aimes le hockey. Mais est-ce que tu fais des sports? Est-ce que tu as...
Ben là, j'ai commencé à faire du patin avec les Hiboux de Montréal.
Les hiboux, oui, ça, on connaît bien. Ça,
ouais.
OK, je savais pas qu'on pouvait faire... tu sais, qu'on pouvait être finalement avec
demain,
les hiboux.
Demain, c'est ma 12e séance, demain.
Avec les... OK, c'est une équipe avec des jeunes. C'est ça?
Ben, il y a aussi des... y a aussi qui ont 50 ans, des choses comme ça.
Ben, c'est ça?
Ouais.
Tout ensemble?
Ouais.
Je pensais que les hiboux, c'était uniquement des adultes, puis qu'il y avait comme exemple un...
Ben, c'est des adultes, là, mais...
Mais ils accueillent...
Ils donnent des cours de patin aux personnes de mon âge,
aux plus jeunes. Puis ça, c'est le fun?
Ouais.
Puis ça, ça va être ton deuxième?
Ouais.
OK. Puis sinon, à part le patin, c'est quoi les autres activités que t'aimes faire?
Ben, je fais du soccer avec le parascolaire à l'école, là.
Ouais. Avec un ballon sonore?
Ouais, de 6-6 foot.
De 6-6 foot? C'est quoi ouais. du 6-6 foot?
Ben, c'est pour les personnes en cécité. C'est un ballon que tu l'entends beaucoup. Là. C'est...
OK. Puis à ce moment-là, ça te permet de repérer dans l'espace, il est où, pour pouvoir kicker à bonne place.
Ouais.
OK. Sinon, est-ce que tu fais d'autres activités? Peut-être pas nécessairement sportives. Est-ce que tu aimes ça, jouer à des jeux vidéo?
Ouais.
Oui? Ça, t'aimes ça?
Ouais.
Qu'est-ce que t'aimes comme jeu vidéo?
C'est un jeu de hockey des années 70.
Okay. des NHL?
Non, c'est un jeu qui s'appelle Bush Hockey League. Là, les joueurs n'ont pas de casque.
OK. Puis, qu'est-ce que ça fait qu'ils n'ont pas de casque?
Ben, il y a des batailles. Tu peux faire des buts. Puis...
Ils font des commotions cérébrales parce qu'il y a des batailles. Puis ils se blessent. Oh là là. Ça, là, viens pas me dire que t'aimes ça au hockey quand il y a des batailles. T'aimes-tu... Hey.
Des fois, il y en a. Là.
Ouais, t'aimes-tu ça?
Ben, ça me dérange pas. Là.
OK. Mais...
C'est physique, des fois. Là.
Ouais, c'est ça. T'aimes-tu ça quand ça... Tu sais, quand ça brasse un peu, là?
Ça me dérange pas, là.
Parce que moi, je suis la personne qui crie quand il y a une bataille. Je fais « Non, arrêtez de vous battre! » Toi, je pense pas que tu fais ça.
Non.
OK. Fait que là, c'est ça. Tu joues à des jeux vidéo. Est-ce que t'as des frères et sœurs?
Non.
OK. Est-ce que tu joues à des jeux vidéo avec tes parents?
Ouais.
Ouais? Ou tu joues seul?
Ouais, avec mes parents aussi.
OK, les deux. Puis sinon, est-ce que t'aimes ça faire, je sais pas, tu écoutes la télévision, tu vas faire des activités avec tes amis?
Ouais.
Ouais, quoi?
Ben, j'écoute de la musique, des choses comme ça.
OK. Puis est-ce que tu fais des trucs avec tes amis?
Ben, à l'école, bon, on joue ensemble, puis tout ça.
OK. Mais de la maison, tu les vois moins?
Ben, on s'appelle au téléphone.
OK. Est-ce qu'ils sont dans le même coin que toi? Parce que vu que Jacques Ouellet,
non,
c'est
ben,
loin.
J'ai une amie qui habite à Sainte-Anne-des-Plaines.
Ah ben, tu sais-tu quoi? Sainte-Anne-des-Plaines, c'est mon patelin de jeunesse. Ma famille habite encore là-bas.
Ah. Oh, okay.
Oui, Sainte-Anne-des-Plaines, je connais très bien. Mm-hmm. OK, donc t'as une amie qui est là-bas.
Oui.
C'est ça, c'est un peu loin, hein? Toi, t'es du bord de Longueuil, là. T'es de l'autre côté, là.
Ouais.
Mais elle aussi, elle va à Jacques Ouellet?
Ouais.
Ah!
On est dans la même classe.
OK. Ah, je savais pas que c'était aussi large, le territoire, là. Donc, c'est vraiment, c'est régional. Fait que c'est pour ça aussi, quand tu développes des amitiés, c'est pas comme quand t'as des amis dans la même rue que toi, quand tu vas dans une petite école de quartier, là.
Ouais.
Marc-Antoine, ben, je te remercie vraiment beaucoup d'être venu.
De rien.
Puis moi, j'aimerais vraiment ça, là, éventuellement, t'as envie de revenir, puis qu'on se fasse une émission où est-ce qu'on parle d'hockey, peu importe, choisis le thème. Ça va me faire vraiment plaisir qu'on fasse ça ensemble.
Okay. Ben, merci beaucoup.
Ben, merci. Et tout de suite après, je vais accueillir Audrey-Anne Bouchard, qui est artiste. On va parler avec elle de ses différents projets, mais du fait aussi qu'elle a un handicap visuel. Ça va être très intéressant. À tout de suite!
Vous écoutez Mission Vision avec Julie Châtelain.
Et je poursuis avec Audrey-Anne Bouchard, qui est artiste, et puis on va découvrir son parcours autant au niveau professionnel, mais aussi personnel. Allô, Audrey-Anne.
Bonjour, Julie. Merci de l'invitation.
Bien là, moi, je suis vraiment contente. On s'était parlé un petit peu au téléphone déjà, et là, je me suis dit, ah, ça va vraiment être super intéressant, parce que ben, j'aime ça mettre en lumière des personnes qui sont en situation de handicap visuel, et c'est ton cas.
Oui, tout à fait. Donc, moi, j'ai la maladie de Stargardt.
Il y a tellement de maladies. Celle-là, je l'ai jamais entendue.
Bon, mais elle n'est pas si commune. Mais okay. En fait, c'est une dystrophie maculaire qui affecte la macula dans la rétine.
Mm-hmm.
Et donc, j'ai pas de vision centrale. J'ai des scotomes au centre de mon champ visuel. Alors, je fonctionne seulement avec ma vision périphérique.
OK.
Ce qui fait que je vois environ... à 45% aujourd'hui. C'est une maladie dégénérative, mais okay. Pour l'instant, moi, ma situation est stable, donc j'ai cette chance.
OK, mais ça, c'est de naissance?
Oui, c'est de naissance, okay. Mais pour ma part, j'ai commencé à perdre la vue à la fin de l'adolescence, donc autour de 16-17 ans, mais ça a pris quelques années avant qu'on puisse nommer la maladie comme telle, et donc avant que je prenne vraiment conscience de comment je voyais, en fait, comment je réalisais que j'arrivais pas à lire des mots au tableau à l'école, des choses comme ça, mais je comprenais pas exactement qu'il me manquait des portions dans l'image.
Ça veut dire que toute petite, toi, tu t'es comme développée normalement, tu voyais,
Oui, je voyais très bien.
Il n'y avait pas du tout de limitation à ce moment-là?
Non, pas du tout. Puis il n'y a pas d'autres cas dans ma famille, donc c'est pas non plus quelque chose qu'on surveillait ou qu'on soupçonnait.
OK, OK. Et là, à ce moment-là, quand ça a commencé, comme tu dis, là, tranquillement, ça s'est mis à dégénérer et ça a pris quand même encore quelques années avant qu'ils disent « voici le diagnostic ».
Exactement. Mais je dirais que moi, dans mon champ visuel, j'ai pas une tache noire ou un... C'est vraiment plus comme un angle mort, donc il me manque une partie de l'image. Mais c'est difficile à comprendre quand tu vis avec ça, parce que c'est quand le médecin, en fait, m'a demandé de regarder tout droit, puis là, elle mettait des choses vraiment au centre de mon regard, que là, j'ai réalisé, ah, c'est à cet endroit-là que je ne vois pas. Okay. Mais avant ça, j'avais des difficultés, mais je pensais, ben j'ai besoin de lunettes, comme d'autres enfants. Oui. Puis là, ben j'ai eu des lunettes, ça n'a pas tant amélioré la situation. Mais à force de faire comme ça des recherches, puis c'est tant qu'on ne voit pas le bon spécialiste qu'on...
et justement, dans ton type de maladie, c'est quel spécialiste qui est le bon?
Oui, donc c'est vraiment un neuro-ophtalmologiste qui va se spécialiser surtout dans la rétine.
OK, OK. Vraiment au niveau de la rétine.
Oui.
Donc un rétinologue, tout ça. Mais en fait, ce que je trouve quand même... Bien, je veux dire intéressant dans le sens que moi, j'aime ça découvrir des nouvelles même maladies, là, des conditions de vos de l'œil, parce que je trouve que c'est quand même assez fascinant. Parce qu'on entend souvent les mêmes maladies. T'sais, on entend souvent le glaucome, rétinite pigmentaire, dégénérescence maculaire, des décollements de rétine. T'sais, c'est souvent les
c'est
mêmes.
Plus commun,
oui, c'est ça. T'sais, comme moi, j'ai la DMLA.
D'accord.
Donc, ma macula, elle est affectée, mais clairement pas de la même façon que ta maladie à toi, parce que sinon, ben ils appelleraient ça la même chose.
Exactement, c'est un peu différent.
Et moi, ce que ça fait, c'est que ça assombrit. Tu sais, c'est comme si... Parce que là, toi, tu disais, c'est pas comme si ça faisait ça. Tu sais, tu parlais d'un angle mort, mais tu sais, moi, c'est comme si ça crée une tache. Mm-hmm. Moi, ça crée vraiment comme une tache au centre. Donc, tranquillement, c'est tout croche, là. Tu sais, c'est ondulé, c'est plus des lignes droites, c'est rendu tout est courbé. À un moment donné, bien là, ça fait que tu perds des petits bouts. Puis là, tranquillement, ça devient une espèce de tache grise. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, ça peut devenir une tache noire, tu sais, dans le milieu.
D'accord.
Mais toi, c'est pas ça?
Pour l'instant, non. Moi, j'ai pas de. C'est un peu comme quand on regarde une lumière
halo,
un certain temps, ça me fait un petit halo, mais
comme
mais
comme plus. Quand t'as, c'est ça, un petit halo un peu bleuté ou vert ou.
Oui, ou pour ma part, c'est vraiment comme lumineux. C'est vraiment donc, blanc jaune, là, la couleur de la lumière.
Dans le centre.
Oui.
Comme si c'est un peu blanc, tu sais, on va dire une lumière, là, tu sais, comme quand tu te fais faire un examen de rétine, là, où est-ce qu'ils t'agrandissent, ils te mettent les gouttes pour dilater ton œil, que là, ils disent, regarde en haut, regarde à droite, c'est épouvantable. C'est souffrant. Ça a l'air de rien, mais c'est vraiment souffrant parce que tu forces tellement pour essayer de. Ben, parce que tu es complètement aveuglé. Pas que ça brûle, mais on dirait que ça brûle. En tout cas, c'est bien spécial. Fait que c'est... Puis après ça, tu vois pas rien, là. Tu vois, t'es aveuglé complètement. On le sait que c'est temporaire. Mais ça veut dire que toi, à ce moment-là, t'as ça tout le temps dans le centre, mais tu vois bien les contours, ta vision périphérique.
Exact.
Donc, tu peux... Parce que t'es arrivé, t'as pas de canne blanche.
Non, j'ai pas de canne blanche pour le moment. Peut-être éventuellement, ça deviendra un besoin avec une baisse de vision.
Mais pas pour l'instant.
Pour l'instant, ça va, étant donné que j'ai ma vision périphérique, j'arrive à bien m'orienter.
OK.
Puis j'ai développé aussi ce qu'on appelle la vision excentrique. Donc, c'est-à-dire que je regarde, je trouve j'arrive à focaliser sur des points précis en regardant un peu à côté.
À côté, exact. Un peu croche, là.
C'est cela.
Oui, c'est ça. Souvent, on se tasse la tête un peu de cette façon-là, puis on va chercher des bouts qui nous manquent, là. On développe plein de petites stratégies. Et là, il y a tous des traitements pour cette maladie-là, tu sais, comme la dégénérescence maculaire, c'est des injections qui... En tout cas, des fois, ça marche, des fois, ça marche pas, mais il y a quand même un traitement. Toi, la maladie que tu as, y a-tu des traitements?
Pas pour l'instant.
OK. C'est dégénératif.
C'est cela.
Il n'y a pas d'opération, il n'y a pas...
Non, pas pour l'instant. Okay. Il y a beaucoup de recherches quand même.
Oui, oui.
Mais pour l'instant, il n'y a pas de, solution okay. encore trouvée.
Et est-ce que c'est une maladie qui te prépare déjà à dire qu'éventuellement, c'est une cécité complète?
En fait, majoritairement, non.
Okay.
Mais j'ai connu des gens qui ont la maladie de Stargardt qui ont une cécité complète. C'est plus rare. C'est comme une forme plus aiguë.
OK.
Mais d'une personne à l'autre, c'est un peu différent. Donc, on ne peut pas trop prédire. Mm. S'il y avait des gens dans ma famille qui l'avaient, oui. je pourrais me comparer un peu à eux.
Oui.
Mais comme ce n'est pas le cas, c'est un peu l'inconnu. Mais il y a des choses qu'on peut faire pour prévenir, comme porter des verres fumés,
Le soleil.
Pour le soleil et donc limiter. Dans le cas de Stargardt, c'est vraiment dû aussi à la vitamine A.
Ah, oui.
Donc, en fait, c'est...
T'as comme un supplément.
C'est ça, c'est qu'on n'a pas le gène qui permet de l'éliminer. Mm-hmm. Donc, elle va se déposer sur la rétine. Donc, c'est vraiment de faire attention aussi à la consommation de vitamine
de
A.
De pas trop en prendre, dans le fond.
Ça? Ben, oui, tu sais, les médecins... Mon spécialiste me disait, bon, tu peux pas t'empêcher non plus de manger tout ce qu'il y a de la vitamine A, mais tu sais, de pas prendre des suppléments, par exemple.
Ah, c'est ça. OK, donc toi, c'est le contraire. Pas de suppléments.
C'est ça. C'est
OK, tu vois, quand tu as la dégénérescence, c'est le contraire. Ils veulent que tu prennes un supplément avec la lutéine, vitamine A, tout ça ensemble. Là.
D'accord.
Donc OK, toi, c'est le contraire.
Exactement.
OK, OK. Puis là, à ce moment-là, quand t'es petite, comme on dit, tu vois bien. Donc, toi, tu t'es développé normalement. Et là, à quel âge qu'on a su là, vraiment que tu as la maladie Stargardt?
Oui, je pense que j'avais 19 ans.
OK.
Oui, j'étais à la fin de mon cégep et j'étudiais en arts visuels.
Déjà, c'était ça, en fait, ma question, tu sais, c'est de voir si tu avais déjà commencé le processus.
Ben oui, tout à fait.
Okay.
Moi, depuis tout petite, j'ai toujours dessiné et à la fin de mon secondaire, j'ai fait mon collégial en arts visuels.
OK.
Et puis, j'avais pas encore décidé d'aller en art de la scène, mais j'étais déjà bien engagée là, dans le domaine artistique.
OK. Oui. Puis là, je sais, là, c'est pas arrivé, là, c'est pas comme ça, mais tu sais, c'est plus voir si c'est déjà une réflexion, tu t'es dit, tu sais, comme là, t'étais entamé, t'avais deux pieds dedans, donc là, tout d'un coup, dire, ah ben non, là, je peux pas faire ce métier-là, tu sais, c'est une chose, versus de dire, mais j'irai jamais étudier là-dedans, je serai pas capable de faire ce métier-là, là, finalement, visuellement, là.
Mm-hmm. Bien, c'est sûr que dans mon cas, ben, je me suis pas du tout posé de questions par rapport à mon cheminement. Non. D'abord parce que quand j'ai eu le diagnostic, ma vue avait déjà baissé de comme 50%.
Ah,
donc, oui. J'arrivais déjà à fonctionner, puis à créer des choses que j'aimais, puis qui, tu sais, que mes professeurs trouvaient intéressantes aussi. Donc, ça n'a pas été un questionnement. Je pense qu'aussi, proche de la début vingtaine, maintenant avec du recul, j'avais peut-être pas la maturité d'avoir toute cette réflexion. Tu sais, c'est sûr que c'était un peu un choc sur le coup.
Ouais.
Puis j'étais peut-être plus dans le déni de dire ben, « je continue comme si... » En fait, oui, je reçois cette nouvelle, mais... au quotidien, ça va pas changer mon quotidien, mon parcours. Puis ça l'a pas changé mon quotidien non plus parce que je vivais déjà avec le handicap
sans le savoir, c'est ça.
Le fait d'avoir le diagnostic, ben ça fait que j'ai pu avoir une référence vers un centre de réadaptation puis plein d'outils pour m'aider à faire ce que je faisais déjà sans les outils.
C'est ça la différence.
Exactement. Donc à ce moment-là, pour moi, c'était vraiment ça.
Puis, comme tu dis, tu as eu une période, tu dis probablement que j'étais dans le déni, mais y a-tu un moment déni où est-ce que tu dis, OK, non, là, ça a frappé, là. Tu sais, là, j'ai pris conscience de ce que ça voulait dire, une perte de vision, que c'est dégénératif.
Pas tant. En fait, ce qui était difficile, moi, je viens de la ville de Québec.
Okay.
Et donc, j'avais 18-19 ans, c'est ça. Donc, le fait de ne pas pouvoir conduire, pour moi, c'était le plus gros deuil. Je dirais que ça l'est encore aujourd'hui.
Parce que c'était clair.
C'était clair.
Est-ce que tu as déjà conduit, puis on t'a dit non, là, c'est terminé,
j'ai
ma
eu mon permis temporaire. Donc, j'ai conduit avec quelqu'un à côté de moi. Là,
mais quand t'sais? Même.
Quand même,
tu
oui.
T'es assis.
Oui, oui. Puis venant d'une ville où il n'y a pas de métro, non, le transport en commun est moins développé, c'était vraiment nécessaire.
Mm.
Mais maintenant, à Montréal, je vis bien sans.
Oui.
Mais donc ça, c'était un deuil. Par la suite, ce qui s'est plutôt passé, en fait, c'est que j'ai été très soutenue déjà par les intervenants autour de moi. T'sais, on m'a donné beaucoup d'exemples d'artistes qui vivaient avec des conditions visuelles spéciales, comme... Il y a des gens qui disent que Van Gogh voyait beaucoup en jaune. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de jaune dans ses toiles.
Ah!
Après ça, on disait que Monet, quand il a développé l'impressionnisme, c'est aussi parce qu'il voyait quand même flou. Toutes sortes de... Je ne sais pas, après, je peux aller vérifier comme l'exactitude de tout ça.
En même temps, il y a beaucoup d'artistes visuels qui ont... Tu sais, que c'est souvent quelque chose qu'on va entendre. Tu sais, qu'il y avait différentes conditions d'handicap, là, tu sais, avec leur sens, avec... au niveau cognitif, là, tu sais,
Tout à fait. Donc, ça m'a plutôt comme encouragée, puis convaincue que j'étais dans la bonne voie. Puis après, c'est plus quand j'ai... Donc là, après, mon parcours un petit peu bifurqué parce que avant la fin de mon cégep, j'ai décidé finalement de m'orienter plutôt vers la scène et donc de faire des décors.
Parce que tu disais plus au début, c'était art visuel.
Exactement. Au début, je deviens artiste peintre. Est-ce que je fais des installations, tout ça?
Oui.
Mais il me manquait vraiment le côté du travail d'équipe.
Ah,
c'est quand même assez solitaire, tu sais, artiste visuel.
Mm-hmm.
Et donc, moi, j'ai fait de la danse aussi toute jeune pendant tout mon secondaire. Et puis, c'est quelque chose qui me manquait. Donc, j'ai trouvé ce programme-là ça s'appelle Design for the Theater à l'Université Concordia. Mais c'est comme scénographie où on étudie les décors, les costumes, les éclairages. Et je suis déménagée à Montréal pour étudier dans ce programme.
OK.
Et j'ai entamé une carrière comme conceptrice d'éclairage à Montréal. Et c'est au fil de cette carrière-là, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit, mais le fait que tu vois différemment, ça doit influencer ta manière de créer. Puis,
c'est sûr.
Moi, je ne m'étais pas trop posé la question.
Oh non!
Pas tant, parce qu'au début, tu veux un peu rentrer dans le moule.
Ouais.
Tu veux que les gens aient envie de travailler avec toi. Tu veux dire, ben moi, je travaille comme tout le monde. Mais après, je suis allée faire une maîtrise en Europe, en France, puis j'ai décidé de faire mon sujet de recherche sur l'intégration de la projection vidéo dans les performances. Mais c'est vraiment là que j'ai réalisé, mon métier est très visuel, en fait.
Mais mon Dieu, tellement!
Je fais un métier de l'image. On dirait que ça m'avait jamais frappé avant.
Oui.
Et puis, j'ai commencé à réfléchir à comment on pourrait communiquer la danse et le théâtre au-delà de la relation visuelle qui prime entre performeur-spectateur. Donc, tout est parti un peu de là, mais ça... À ce moment-là, je dirais que le fait de ne pas voir, c'est devenu plutôt comme un chemin pour découvrir des nouvelles façons de faire que de me dire, je peux pas faire ce métier-là. Mm. Et pour répondre à ta question, ça a été plus ça, le cheminement.
C'est comme si finalement, c'est devenu un levier. Hein? C'est comme si ça t'a élevé puis ça t'a amené vers. Parce que, tu sais, des fois, on peut faire ça, tu sais, de dire, je vais aller vers. Et des fois, c'est dans l'évitement. Et les personnes qui sont en situation de handicap visuel, beaucoup, souvent, c'est le mécanisme qui est le plus utilisé, l'évitement. Tu sais, je ne vais pas sortir de chez nous comme ça. Je ne vais pas être challengée sur qu'est-ce qui pourrait arriver.
Mm-hmm.
C'est parce qu'on n'a pas vraiment le contrôle. Non. Alors que, moi, je suis comme toi. Tu sais, moi, je vais vers. Tu sais, j'utilise finalement ma condition pour amener ça à créer autour de ça.
On a aussi quand même, je pense, une certaine autonomie qui permet que c'est plus facile.
Mon Dieu.
Je comprends que...
Parle-moi d'autonomie, je veux dire, moi, c'est...
C'est ça.
C'est ma vie. Moi, si j'ai pas d'autonomie, là, je... Pouf!
Ben c'est ça. Je peux comprendre que quelqu'un qui perd peut-être la vue plus drastiquement d'une journée à l'autre, c'est moins facile. Là.
Oui.
Je veux dire, moi, ça a été quand même...
graduel.
Je dis pas que ça a été facile pour moi, mais je veux dire, j'ai quand même eu des conditions... qui ont favorisé, si on veut, mon parcours aussi, je pense.
Puis moi, j'ai envie de te dire que je pense aussi que c'est une question de personnalité, point, à la base. Hmm. Parce que, tu sais, moi, on m'avait déjà dit ça aussi, que c'est pas parce que tu as un handicap que tu vas développer toutes les, tu sais, l'espèce de proaction de vouloir être dans l'autonomie au maximum. Et ça, c'est une question aussi de personnalité, tu sais, mm-hmm. donc personnalité peut-être un petit peu plus fonceuse, puis de dire, ben moi, non, moi, je vais défoncer les portes. Parce que sûrement que t'en as défoncé des portes.
Peut-être,
tu sais. Fait que moi, je trouve ça super intéressant, tu sais, puis de voir que finalement, ton moteur créatif, c'est toute cette relation-là, justement, par rapport au visuel. Puis moi, ça, c'est quelque chose que c'est pour ça que dans cette émission-là, je trouvais super intéressant, c'était de prendre des gens en situation de handicap visuel, mais des gens qui ne sont pas en situation de handicap visuel pour les amener à se questionner, à avoir une réflexion par rapport au sens de la vue. Parce que nous, entre nous, là, on se parle, on le sait, là, c'est dégénératif, là, on le sait ce que ça veut dire, on le vit. Mais tu sais, moi, j'aime ça aller rejoindre... Tu sais, ma sœur qui est à côté, qui voit super bien, que comme je suis sa sœur, on dirait qu'elle le comprend, je vais dire de même. Mm-hmm. C'est comme si elle comprend, je suis sa sœur. Oui. Quand après ça, tu lui poses des questions concrètes, là, on dirait que tout d'un coup, elle veut pas aller là. Mm-hmm. Non. Tu sais, oui. Elle est heureuse de voir. Ben, dis-y pas que demain matin, elle pourrait plus voir de quoi qu'elle a l'air dans le miroir, tu sais. Donc là, c'est là que je me suis dit, ben moi, ça me tente, tu sais, d'amener les gens à vivre l'inconfort de ce questionnement-là parce que, mais c'est vrai, on est dans une société visuelle.
Absolument.
Donc, toi, t'es encore plus les deux pieds dedans parce qu'on est au niveau de l'art. Et l'art, c'est visuel, là. Tout est visuel.
Oui, ben c'est sûr qu'il y a la musique, il y a plein de formes dans l'art, mais l'art du spectacle.
Ben non, mais l'art du spectacle, c'est ça. Oui, tu sais, je veux dire, oui, tu peux écouter de la musique, mais tu sais, c'est souvent la musique, elle va être vue, elle va être, tu sais, les réseaux sociaux. Tu sais,
oui, on est dans un monde où on promouvoit tout à travers le visuel, dans mes demandes de subvention pour pouvoir créer mes projets, je crée des vidéos de mes œuvres, j'explique, c'est ça. Voici une vidéo de mon spectacle, mais ce n'est pas comment le spectateur le reçoit, parce que les spectateurs et spectatrices ne voient pas dans l'expérience.
Mais, OK, donc justement, toi, comment tu bâtis... ton show, là. Tu le bâtis comme si ça s'adresse à un public qui est non-voyant ou à des voyants, mais qu'on leur fait vivre l'expérience?
Non, c'est vraiment la première, c'est une bonne question. En fait, c'est vraiment, on fait nos choix. Déjà, pour répondre à la question, oui, je le bâtis pas toute seule, donc c'est vraiment un travail d'équipe. Oui,
ça, c'est ça. Tu l'as dit au début, ce que t'aimes, c'est le travail d'équipe.
C'est ça, exactement. Oui. Donc, je travaille avec des chorégraphes, des auteurs, des scénographes qui vont faire les décors, des compositeurs, des concepteurs sonores, donc c'est vraiment toute une équipe.
Oui.
Et... nous, on part vraiment sur la base, on crée le spectacle pour le public non-voyant.
Ah oui!
Donc, parce que les retours des personnes voyantes et semi-voyantes, parce que moi, je suis semi-voyante, mais je me ferme les yeux pour faire la mise en scène, parce que on ferait pas les mêmes choix artistiques si on les faisait les yeux ouverts.
C'est sûr.
Donc, il faut vraiment partir du principe que... tous les autres sens sont mis à contribution, mais on ne voit pas. Et donc, c'est ça, j'ai pas les mêmes retours. Par exemple, si on implique beaucoup la communauté des personnes non-voyantes dans nos répétitions. Par exemple, si on présente une scène où il y a je vais donner un exemple. Dans mon premier spectacle, Camille, un rendez-vous au-delà du visuel, on avait fait une scène autour d'une table où tout le monde partageait un repas.
OK.
Puis pour nous, tous les artistes qui étaient voyants ou semi-voyants, on se bandait les yeux, on trouvait ça donc original. Mais les personnes non-voyantes qui sont venues assister à la scène m'ont dit, ben nous, c'est comme tous les soirs de notre vie. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans.
C'est ça.
Donc, je me suis dit, ben oui, tout à fait. Mm. Et pour rendre l'expérience extraordinaire, ben là, on a décidé pendant ce repas-là autour de la table qu'on allait rentrer dans la pensée d'un des personnages, qui allait avoir des flashbacks, on allait retourner dans son enfance. À un moment, on a essayé aussi que la table devenait une cabane, comme on se crée quand on est enfant, puis on se cache en dessous de la table. Donc, vraiment d'aller vers un univers. En fait, le fait de me concentrer sur la perception oui. des personnes non-voyantes me permet oui. vraiment d'aller vers d'autres avenues créatives. Puis je donne un autre exemple. Il y a une scène où on avait, par exemple, la radio qui jouait en même temps que deux personnages qui se parlaient. Puis les personnes voyantes me disaient, ben là, ça fait beaucoup d'informations à percevoir, à recevoir oui. en même oui. temps. Mais les personnes non-voyantes, eux, ben ils étaient tout à fait capables de suivre tout ce qui se disait à la radio et de suivre la conversation mm-hmm. en même temps. Donc, c'est là où, ben moi, je me dis, dans ces moments-là, ben nous, notre public cible, c'est les personnes non-voyantes. Donc, on va faire les choix qui vont permettre que le spectacle soit vraiment conçu selon leur sensibilité. Mais c'est sûr que c'est une expérience intéressante aussi pour le public voyant.
Qui peut venir les yeux bandés.
Exactement, qui doit venir les yeux bandés.
Qui doit, pour c'est vivre ça. Vraiment l'expérience.
Absolument.
Mais tu vois, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que la différence, c'est que souvent, on va voir un spectacle qui est pour les voyants, mais là, il va y avoir de l'audio description qui n'est pas adaptée pour ceux qui ont un handicap visuel. Et là, on se retrouve bombardé d'informations. Et là, t'entends tellement trop d'affaires, puis là, t'es comme « qu'est-ce qui se passe? » Moi, je déteste l'audiodescription.
Oui, c'est vraiment une question de goût, mais je pense qu'il y a différentes... L'audiodescription, c'est en développement en ce moment à Montréal, ça commence.
Ben,
donc, je pense aussi qu'il y a différents styles qui vont se développer, puis il y a différentes...
Et toi, c'est comme si c'est pas... Tu sais, toi, c'est là la différence. C'est que toi, c'est que tu te mets déjà dans les bottines, toi et ton équipe, de quelqu'un qui a un handicap visuel, et non, comme je te dis, un spectacle traditionnel que là, on essaye de faire rentrer.
C'est ça. On crée pas un spectacle conventionnel
c'est ça.
Qu'on adapte ou pour lequel on va créer des outils d'accessibilité. C'est que la forme du spectacle en soi est inclusive.
Complètement.
C'est ça. Donc, nous, ça implique que le public n'est pas assis dans la salle. Le public est dans le décor avec les acteurs, les danseurs.
Mm-hmm.
Et donc, c'est soit un parcours ou soit ils sont assis sur une chaise puis on va naviguer tout autour d'eux pendant le spectacle. Peut-être que leur chaise va vibrer.
Wow.
Le son va voyager tout autour des spectateurs. Ils vont être amenés à toucher les murs de la maison. Il y a cet élément-là.
Très comme interactif.
Absolument.
Et là, justement, là, tu as parlé, tu sais, tu as des spectacles que tu as faits, mais là, tu es en construction d'un prochain qui est pas... Tu sais, que tu peux pas annoncer, là, parce que c'est pas encore... officiel.
Exactement. C'est pas encore tout à fait officiel, mais on travaille...
Ça s'en vient.
Oui, c'est ça. Depuis 2021, on travaille sur la création d'un deuxième spectacle. L'année passée, on tournait encore le premier spectacle qui s'appelle Camille, comme je l'ai mentionné auparavant. Le deuxième spectacle s'intitule pour l'instant Fragment. On verra si
mais
c'est
ça
le...
pourrait évoluer, c'est ça qui
arrive.
Oui,
exactement. Ça pourrait évoluer. Quoique, je pense que c'est un bon titre pour le
moment. Moi, j'aime bien ça,
le
Fragment, là, oui.
Oui, tout à fait. Puis, c'est vraiment sous le même principe où les spectateurs vont être invités dans l'espace de la performance.
Oui.
Et ils vont être en interaction avec les personnages. C'est à la fois, je dirais que c'est comme un mélange de danse-théâtre. Donc, on travaille avec des danseurs, on travaille beaucoup à communiquer le mouvement du corps par le mouvement, par le contact physique.
OK.
Et c'est cela. C'est un spectacle qui raconte l'histoire de, pour l'instant, deux femmes qui ont habité une même maison, mais à deux époques différentes.
Ah, oh, wow!
Et donc, on fait un peu ce saut-là dans les époques.
Dans les deux espaces-temps, mais ça, dans le fond, comme tu dis, il n'y a pas encore de date officielle, mais exemple que vous souhaitez, c'est quoi, à l'automne
2025? Oui, ça sera à l'automne 2025.
OK, fait qu'à ce moment-là, tu vas pouvoir revenir... dans
avec
mon
plaisir.
Émission, pour là, officialiser et nous en parler.
Avec plaisir.
Dire, là, c'est telle date à telle salle, parce que là, c'est pas le cas. Mais on sait que c'est projeté là pour l'automne.
Absolument.
Et ça va être à Montréal?
Oui, ça va être à Montréal.
Bon, c'est sûr. Fait que moi-même, je vais pouvoir aller m'asseoir et vivre cette expérience-là. Moi, j'ai vraiment très hâte parce que quand je voyais, déjà, je cherchais, je me disais, oui, où son prochain spectacle? Là, je veux y aller. Oh non, il n'y en a pas.
Tout à fait, ça s'en vient.
Mais ça s'en vient. Mais ça a été vraiment un plaisir immense de t'accueillir dans mon émission. J'aime beaucoup ton parcours. Je trouve que tu sais, je me retrouve dans plusieurs trucs que tu as dit. Puis en même temps, ben, je trouve ça beau, tu sais, de voir comment que le côté artistique, tu sais, comment ça va nous nourrir, l'handicap finalement va nourrir la création. Puis moi, j'aime ça, tu sais, quand je rencontre des personnes qui utilisent ça comme un moteur. Puis je trouve que tu représentes bien ça.
Ben merci beaucoup. C'est tout à fait réciproque. Merci pour la belle invitation aujourd'hui.
On peut te suivre sur les réseaux sociaux, hein?
Oui, tout à fait. Donc, j'ai une page qui est Audrey-Anne Bouchard, conceptrice au-delà du visuel sur Facebook.
Oui.
Et sinon, on a un site web aussi qui est tout à fait accessible.
Audrey-Anne Bouchard?
Non, c'est vraiment www.audeladuvisuel.com.
OK.
Exactement.
Mais même moi, quand j'écris Audrey-Anne Bouchard, ça
oui,
m'a amené...
Ça va vous amener.
C'est ça, exactement. Bien, merci beaucoup, Audrey-Anne. Ça a été une super belle émission aujourd'hui. J'étais contente de passer ce beau vendredi avec vous. Donc, Marc-Antoine, Lévesque, 13 ans, vous allez pouvoir le retrouver finalement quelque part sur une patinoire éventuellement. Et sinon, bien, merci, Audrey-Anne. Mathieu Tessier à la mise en onde. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre belle émission de Mission Vision. Bye-bye tout le monde!